Ce qu'il faut à ce pays, c'est plus qu'un bâtiment, c'est de l'espoir.
Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.
Les peuples ne devraient pas avoir peur de leur gouvernement. Les gouvernements devraient avoir peur du peuple.
Et si on faisait un pas de côté? Si on faisait un pas de côté, on verrait ce qu'on voit jamais. On verrait ce qu'on voit jamais.
Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour notre nouvelle émission pour l'association Wakadi. Alors Wakadi, est-ce qu'on doit encore le rappeler? C'est un acronyme qui signifie « on a quelque chose à dire ». Et un acronyme, parce que je vois qu'il reste encore des incultes avec nous, c'est quand on constitue un mot à partir des initiales. Par exemple, tu avais une société qui s'appelait, je ne sais pas moi, l'entreprise pour éduquer naturellement. On pourrait imaginer qu'il y a un acronyme, mais qu'elle ne choisisse pas cet acronyme-là, puisque ça ferait Le Pen, pour son nom d'entreprise. Alors pourquoi je parle de ça? Parce qu'on parle d'association, on parle d'entreprise, et en fait on va évoquer tout doucement des choses qui se déroulent dans les associations, dans les entreprises, mais aussi dans les écoles, dans les services publics, quelque chose de particulier que nous allons décortiquer ce soir avec nos invités. Alors des fois c'est lucratif, des fois c'est plutôt militant, certains peuvent le penser excitant ou plutôt pénible. On l'a même qualifié d'aliénant et paradoxalement de libératoire pour certains autres. Nous allons ensemble discuter du travail. Et parce que derrière le travail se cachent des réalités. Des réalités mais aussi des représentations, des valeurs, des images. Et notre regard sur le travail est aussi fortement en lien avec la société qui construit ce regard-là et qui a donc évolué au fil du temps. Pendant des siècles, vous allez voir, je me suis presque documenté, le travail était même réservé qu'aux esclaves. Un peu plus tard, je crois, jusqu'à la Révolution française, on empêchait l'accès au pouvoir à ceux qui travaillaient. Et on ne pouvait accéder au pouvoir que quand on ne travaillait pas. Et paradoxalement, aujourd'hui, on a un peu l'impression inverse, c'est-à-dire que si on n'a pas de boulot, ça semble très difficile de trouver une place dans notre société. Rappelez-vous les dernières phrases de Xavier Bertrand pendant la campagne électorale sur le cancer de la cistana. Alors, pour notre premier pas de côté, nous allons faire un détour vers ce mot « travail » et pour en parler, parce que suivant les lunettes qu'on chausse, on ne révèle pas toujours les mêmes reliefs, on a invité un collectif qui pense le travail. Alors, qui pense, déjà, c'est astucieux parce que sur Internet, on le pense des fois avec un « e », des fois avec un « a ». Elles vont nous expliquer tout ça. On va souhaiter déjà la bienvenue à Delphine et Tatiana du collectif « Penser le travail ».
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, ils se questionnent sur le travail, mais ils cherchent aussi à nous aider à mieux comprendre pour chacun d'entre nous, et ça va donc concerner tous les gens sur ce plateau, ce qui se trame avec cette notion. Parce qu'on aurait été un petit peu déterminé, peut-être, par notre culture, par notre éducation, par notre classe sociale, si tant est qu'on ait le droit de parler de classe sociale sur un média de grande masse comme Radio Clapas aujourd'hui. On a donc été peut-être déterminé vers un modèle ou un certain rapport au travail, on va voir ça avec vous. Alors sur ce plateau, on a celui qu'on appelle le staccanoviste du micro, c'est Boris bien sûr. Bonsoir Boris.
Bonsoir.
Le travailleur du dimanche, c'est Manu qui est avec nous.
Bonsoir.
On a une salariée modèle, c'est Séverine qui est vraiment notre star à nous.
Bonsoir.
On a un temps partiel qui nous est imposé, c'est Guillaume.
Eh bien oui, c'est moi.
Et à la console, et c'est une première, alors attention, il va falloir la féliciter, c'est Magali qui ne s'investit jamais plus que quand elle n'est pas payée.
Oui, en fait, quand on parle travail, eh ben, travail et radio s'est marié ensemble depuis fort longtemps, même avant l'apparition des radios libres. Il y a eu une sorte d'ovni dans le monde radiophonique avec la radio Lorraine Cœur d'Acier. Et ces dernières semaines est sorti un ovni de documentaire radiophonique fait par Pierre Baron, Raphaël Moutard et Frédéric Rosiès, qui s'appelle « Un morceau de chiffon rouge » et qui retrace l'histoire de cette radio, Radio Lorraine Cœur d'Acier. C'est une radio donc, qui a été fondée en mars 1979, donc certains autour de la table n'étaient pas nés, moi si. Ça a été fondé par la CGT. Exactement, la première émission a lieu le 17 mars pour préparer la grosse manifestation du 23 mars qui devait donc s'opposer au licenciement dans le secteur de la sidérurgie au niveau de Longwy. Donc pour vous dire, il y avait 6600 licenciements sur une population de 20 à 25 000 habitants, ce qui fait quand même pas mal. Donc là, il y avait un problème de travail. Cette radio a bien fonctionné, elle a fonctionné pendant 18 mois, puis s'est arrêtée pour diverses raisons. Et ce documentaire radiophonique, qui comporte donc 5 émissions d'une heure, vous fait retracer un petit peu les différentes étapes de la construction de cette radio, avec les questionnements qu'il y a et les liens qu'il y avait entre la radio, l'immigration, les femmes, la question de la démocratie, du débat d'idées et autres. Et je vous invite vivement à aller voir la documentation de la Nouvelle Vie Ouvrière de la CGT pour vous renseigner sur ce morceau de Chiffon Rouge. On va écouter un extrait tout de suite.
Lorraine Cœur d'Acier, bonjour. Je vous rappelle que vous êtes sur 100 MHz sans modulation de fréquence et que notre numéro de téléphone est le 223 22 35.
LCA, ça a duré 16 mois. 16 mois. C'est-à-dire même après une baisse d'intensité des luttes, elle a continué à exister parce que les gens avaient perdu la sidérurgie, la bataille de l'acier a été perdue. Donc, qu'est-ce qu'il leur restait ? Ben, leur moyen d'expression, hein, parce que là, il y a le chiffon rouge, hein, ce qu'on faisait taire, eh ben, ils pouvaient continuer à s'exprimer, hein, parce que vous savez que le chiffon rouge a été l'hymne des travailleurs à Longwy. Elle est passée à la radio, après les gens l'ont pris à leur compte, et pour ça, après le chiffon rouge, les gens avec les voitures, sur les voitures, avaient un petit chiffon rouge. La chanson est quelque chose qui correspondait bien à la lutte des gens.
Un morceau de chiffon rouge.
Il y a des années qu'il y a des fous qui essayent de créer des radios libres, et puis toc, tout d'un coup, dans un endroit, dans une lutte, ce rêve devient réalité.
Un morceau de chiffon rouge, épisode 1. Longwy vivra.
Union, Action, CGT, Union.
Ce sont des extraits d'Oris de Lorraine Cœur d'Acier, le documentaire radiophonique qui a été
par les copains, donc réalisateurs, et qu'ils ont réduit à 5 heures. Et en plus, il y a une vidéo qui retrace un petit peu, une vidéo qui a été tournée en 80. Qui retrace un petit peu l'histoire de cette radio et qui montre le lien entre vraiment le bassin sidérurgique et la volonté d'essayer de garder son travail, d'essayer de justement, comme ils voient ce travail comme leur permettant d'exister socialement. Et sans ce travail, ils se voient vraiment rejetés complètement de la société. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a toutes les questions qui arrivent et qui ont bousculé le mouvement ouvrier, comme la question de la place de la femme, la question des immigrés, la question aussi de la sexualité, la question du débat démocratique. D'ailleurs, le débat grain démocratique, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas les CRS qui ont arrêté la radio, mais des problèmes justement par rapport à la gestion démocratique un petit peu de la radio. Mais ça, je ne vous en dis pas plus, il faut écouter l'émission. Qui vaut vraiment le coup.
En tout cas, ça nous donne bien envie, et surtout que ça fait partie des choses que ça fait longtemps que nous évoquons avec Wakadi, c'est de pouvoir aussi donner la parole pendant un conflit social à des personnes qui pourraient avoir envie de dire ce qu'on n'entend pas toujours dans les médias. Et je crois que, vu l'actualité qui se profile, on aura ce genre d'occasion très prochainement.
Ah, grâce au patronat, on aura des licenciements et donc l'occasion de faire de belles émissions. Merci le MEDEF, merci le patronat pour tous ces petits cadeaux.
Et donc, on en parle tout doucement, maintenant on va se rapprocher de ce collectif Penser le Travail avec Delphine Grelier et Tatiana Arfel. Alors on a besoin de mieux comprendre qui vous êtes, qu'est-ce que c'est ce collectif et qu'est-ce que vous proposez pour nous aider à mieux réfléchir sur la notion de travail.
Alors peut-être déjà commencer par vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a voulu créer cette association. Bon, on a eu envie de faire réfléchir autour du travail, en partant du principe que pour la plupart d'entre nous, on y passe quand même énormément de temps sans pour autant avoir le temps de s'arrêter pour y réfléchir. Donc voilà, on a voulu créer cette association dont le but vraiment c'est de faire réfléchir sans imposer une réflexion toute faite aux personnes qu'on rencontre. Le but c'est vraiment d'amener les participants à nos soirées, à nos ateliers, à créer eux-mêmes leur réflexion sur le travail, à échanger, à partager autour de ces réflexions-là.
Vous parlez de donner la parole lors des conflits sociaux, c'est aussi donner la parole hors des conflits sociaux pour tous ceux qui sont en silence et bien soit en souffrance au travail, on en parlera je pense plus tard, soit tout simplement en questionnement par rapport à l'endroit où ils passent tout leur temps. Et effectivement, Delphine dit on n'en parle pas, Je pense que tout le monde rentre du boulot crevé, on n'en parle pas à la famille, au conjoint, on a peur de... C'est pas le lieu, on a peur de les ennuyer. On n'en parle pas en temps de travail, il n'y a pas de temps fait pour ça. On en parle de temps en temps à la pause café, mais il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de troisième lieu où on puisse faire émerger collectivement la parole des travailleurs, des chômeurs, des retraités, des étudiants autour du travail.
Et donc vous avez essayé de proposer des lieux de parole. Alors expliquez-nous comment vous avez procédé et où ça se passe. Est-ce qu'on peut y participer tous ?
Alors le principe déjà, c'est qu'on essaye de multiplier nos formes d'intervention et les formes d'ateliers. Donc pour le moment, on a fait des groupes de parole qui ont eu lieu dans des cafés, hein, tout simplement, avec des entrées libres. L'idée, c'était pas de faire des soirées payantes. Hein, personne vient payer pour avoir le droit de réfléchir sur son travail. Donc pour le moment, ça a été des ateliers de parole. À venir, il va y avoir des ateliers d'écriture. Probablement des formes de théâtre forum, peut-être même des ateliers de musique, de percussion corporelle, etc. On a vraiment envie, là pour le moment, l'association elle est jeune, elle est née en janvier, mais on a vraiment envie de multiplier les formes d'intervention, de multiplier ces manières de faire réfléchir.
Juste une question à ce que tu disais, Tatiana, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, qui parle du travail constamment, les ressources humaines, le personnel des ressources humaines s'est multiplié, on parle d'efficacité, de rendement, les organisations syndicales existent depuis des années, elles en parlent du travail. En quoi vous en parleriez différemment que ces gens-là ?
Alors pour ce qui est du discours de l'entreprise, du discours des DRH, c'est pas du tout la parole qu'on veut favoriser. Moi, je parle des travailleurs, des gens qui peuvent très bien être cadres ou employés.
Travail, il y a des gens des ressources humaines aussi.
Bien sûr, bien sûr. Mais c'est un discours qui est produit du côté de l'entreprise. Et ce qu'on souhaitait faire, et c'est ça la question, notamment par rapport aux syndicats, c'est qu'on souhaitait faire ces débats hors de l'entreprise. Parce qu'on pense, moi je suis intervenue un peu en entreprise, qu'il est très difficile de faire émerger une parole libre, ne serait-ce qu'au sein des locaux physiques. Même s'il n'y a là aucun cadre, mouchard ou quoi que ce soit. Moi-même, dans les boulots que j'ai faits, en rentrant dans ces locaux, j'ai une forme de pensée qui est réduite pour ma part. Voilà. Et donc, il s'agissait de la mettre au dehors et de plus de faire échanger inter-entreprise, inter-profession. Ce n'est pas au sein de l'entreprise elle-même, même s'il y a peut-être dedans des actions pour les employés. Ce n'est pas au sein de l'entreprise elle-même. Je pense que la réflexion et l'échange sont suffisants.
Et est-ce que vous pouvez, parce que je ne crois pas que ça a été fait, sauf que j'ai peut-être eu un moment d'absence, mais peut-être nous dire de quel horizon vous venez, notamment les animateurs ou animatrices du collectif ?
Moi, pour ma part, je suis sociologue et formatrice. Donc, je travaille beaucoup avec les travailleurs sociaux. Je forme des futurs travailleurs sociaux et je fais de la régulation, l'analyse de pratiques professionnelles avec des travailleurs sociaux. Voilà, donc je viens de là. Donc, on a une autre intervenante qui... Elle a beaucoup travaillé en entreprise, elle était ingénieure en informatique, elle a fait une reconversion professionnelle, aujourd'hui elle est écrivain public. Voilà.
Inspecteur du travail aussi.
Oui, on a eu aussi quelqu'un qui préparait le concours de l'inspection du travail, donc qui lui était plutôt spécialisé sur les questions juridiques. Et donc Tatiana.
Oui, et moi je suis psychologue de formation. C'est pas vraiment sur ça que je m'appuie, c'est sur une multiplicité de petits boulots. Et puis là, j'anime des ateliers d'écriture, surtout auprès de publics en difficulté. Et puis j'écris, voilà, des romans.
Et alors le premier bilan que vous pouvez tirer des premières soirées de parole, qu'est-ce qui est sorti le plus sur la question du travail, ce que vous avez entendu ?
Alors sans forcément parler de ce qui sort en premier, mais déjà c'est le fait qu'il y a besoin, c'est-à-dire que la première chose qu'on nous dit c'est quand même « enfin on a un endroit où on peut effectivement venir parler de cette chose à laquelle on consacre 8-10 heures par jour selon les gens ». Et ce qui, je ne sais pas, là, moi ce qui me vient c'est par exemple sur les questions de harcèlement au travail. Ce qui est revenu beaucoup, c'est que ça soulageait énormément de se rendre compte que finalement, ce qu'on vivait, ce que les personnes vivent, c'est absolument pas une question individuelle, c'est pas une difficulté individuelle à un moment donné. C'est-à-dire que sur les problématiques de harcèlement, on va systématiquement retrouver toujours le même schéma, dans le même ordre, c'est-à-dire que c'est vraiment toujours le même processus. Et découvrir ça, après on n'a pas fait de soirée spécifiquement sur le harcèlement, sur les souffrances, mais ça vient forcément. C'est-à-dire que c'est forcément une question qui va émerger à un moment donné. Et découvrir que finalement, ben, d'autres vivent exactement la même chose, on se rend compte que c'est un système qui est toxique. Ce n'est pas une faiblesse individuelle à un moment donné, parce que dans les discours, pas tous, mais dans certains discours des DRH notamment, ou de beaucoup de psychologues du travail, il y a l'idée que si on souffre au travail, c'est parce que soi-même, on est soi-même en difficulté. Ça ne viendrait pas du tout de l'organisation. Là, le fait de se rendre compte qu'il y a vraiment des similitudes dans les processus et dans ce qui se passe, je parle du harcèlement, mais on pourrait parler d'autres sources de souffrance dans le travail, ça soulage énormément. Ça, c'est une partie de ce qu'on entend.
Oui, c'est ça. Alors, avant tout, nous, on a eu alerte à l'horloge. On a fini beaucoup plus tard, plusieurs heures plus tard à chaque fois par rapport à ce qu'on avait prévu. Je voudrais juste reprendre, Delphine, tu disais groupe de parole. Il ne s'agit pas de quelque chose, ça peut prêter à confusion, de thérapie de groupe.
C'est pas les travailleurs anonymes.
C'est pas les travailleurs anonymes. Tout à fait. Quoique, bonjour, je m'appelle et je suis en entreprise. Bonjour. Et non, il ne s'agit pas de quelque chose de psy pour le coup. Ce qui est venu aussi, c'est vraiment l'isolement. Effectivement, ce sont les choses dont les gens n'avaient pas parlé. Et que ce soit encore une fois en termes de souffrance, mais en termes de façon plus large, d'où le penser le travail avec un E. Penser et pas penser avec un A, qui est une association dont on reparlera peut-être plus tard, qui est à Lyon, qui est une super association. Mais là, on voulait vraiment englober l'ensemble du travail, y compris l'évolution des modes de management, le temps de travail, même quand il n'y a pas souffrance avérée.
Et les gens qui participent, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de biais ou de travers? C'est-à-dire que les gens qui vont avoir envie d'aller discuter de leur travail, est-ce que par définition c'est ceux qui sont plus en souffrance que la moyenne? Enfin, je propose cette hypothèse.
C'est une des premières questions qu'on s'est posées. Ouais. On s'est dit est-ce qu'on a volontairement intitulé l'association comme ça pour justement élargir et pas créer une association souffrance au travail. Et c'est une des premières questions qu'on s'est posées. On s'est dit mais qui va venir? Et en fait c'est pas. Il y a effectivement une partie des participants qui viennent d'histoires plutôt lourdes, voire très très lourdes au niveau du travail, voire certains qui sont encore en procès pour harcèlement, etc. Mais il y a aussi énormément de participants qui viennent simplement parce que là, on leur donne un espace pour juste prendre une petite distance de recul par rapport au travail, chose qu'effectivement, on n'a pas forcément le temps et l'opportunité de faire dans le quotidien.
Pour donner un exemple par rapport à cette question effectivement du biais de personnes spécifiquement en souffrance, première soirée qu'on a faite et qu'on a répétée, c'était « Raconte-moi ton travail ». Alors, vous pouvez vous faire l'exercice à vous-même. Si je devais te remplacer demain, que dois-je savoir sur ton travail? Le matin, tu te lèves à quelle heure? Qu'est-ce que tu fais? Qui tu rencontres? Où est-ce que tu vas? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a un chef qui est sympa, qui n'est pas sympa? Les trajets, les tâches, etc. De façon très concrète et quotidienne, on essaie d'éviter aussi de partir dans l'immédiat, dans la généralité. Voilà, c'est de l'échange de voilà, comment ça se passe ton travail à toi. Donc ça, effectivement, ça vraiment, ça englobe pas mal de monde.
Alors j'ai juste une question, parce que quand je vous entends parler de harcèlement ou de questions de souffrance au travail, la question que je me pose, c'est quel lien vous faites avec les organisations syndicales? Tout à l'heure, vous disiez c'est à distance des locaux. Mais là, dans ce que vous parlez du fait de rendre la parole collective, également d'accompagner, c'est aussi le rôle que se donnent les organisations syndicales. Alors, quelle complémentarité vous posez? Parce que j'ai l'impression que dans ce que vous dites, c'est un besoin qui n'est pas rempli aujourd'hui, donc auquel vous donnez sens, mais du coup ça pose la question de l'utilité et de la place que prennent les organisations syndicales dans les entreprises.
Alors moi je vais juste répondre pour les endroits où j'ai travaillé de mon côté en étant dans l'entreprise, non pas que le rôle ne soit pas rempli par les syndicats, mais qu'il se trouve qu'en termes de syndicalisation, il y a une chute qui est dramatique et que les gens soit ne n'osent plus, ont peur d'être complètement mal vu par la direction si ce syndic, soit qu'ils ne puissent pas le faire au sein de l'entreprise. Il y a quand même une désaffection. Après, nous, on s'est mis en lien dès le début avec la maison des syndicats. On est allé rencontrer de haut en bas les syndicats qui étaient là. Certains nous disant, mais est-ce que vous souhaitez faire quelque chose, enfin dire qu'on fait mal notre boulot? Pas du tout. On souhaite être complémentaire.
Du coup, vous n'avez pas eu la chance de rencontrer Solidaire, qui n'a pas de locaux comme il faut à la mairie, que la mairie ne donne pas de locaux.
Non, parce que la CGT pouvoir... a pris tout le premier étage.
Ah, les salauds.
Solidaire, on les a rencontrés pour des actions en justice envers Présence Verte, par ailleurs.
Moi, j'aimerais rebondir, non pas sur la provocation de nos amis de Solidaire, mais sur ce que vous dites, parce que j'y vois un vrai problème que j'observe, moi, dans l'intérieur de mon boulot. Vous disiez que vous interveniez auprès des travailleurs sociaux. Il se trouve qu'ici, on est beaucoup de travailleurs sociaux.
Quelques-uns, sauf, en tout cas, sauf certains
bas-du-pied. Il se trouve que les employeurs, en fait, accordent beaucoup d'argent, d'importance, etc., à la parole des salariés sur des intervenants extérieurs, dont les organisations syndicales ou les salariés ne voient pas finalement qu'est-ce qui est porté et quelle transformation de cette parole il y a et quelle influence ça va avoir sur la mise en place des pratiques par les entreprises, l'administration, etc. Et moi, il y a quelque chose qui me gêne beaucoup, non pas dans ce que vous faites, mais dans ce système qui consiste finalement à dire, ben voilà, la parole va se faire en dehors, tout ce qui pourra être dit autour de la table sera évidemment confidentiel, etc. Donc vous pouvez tous vous lâcher, vous pouvez tous machin. Mais sauf que, et c'est la question que je vous pose à vous dans votre activité, c'est quelle transformation de cette... Qu'est-ce que vous en faites de cette parole ? À quoi elle sert aux gens qui viennent la porter ? En quoi elle leur est utile ? Si ce n'est dans des fonctions où je me défoule, je viens vomir un petit peu mon trop-plein, je suis volontairement caricatural, mais voilà. Mais finalement, qu'est-ce que ça m'apporte ? Et vous, qu'est-ce que ça vous apporte ? Et finalement, sur la transformation de l'entreprise ou de l'administration, etc., qu'est-ce que ça apporte au final ? C'est là où j'ai du mal.
Qu'est-ce que ça nous apporte à nous en tant que collectif ?
Chercheurs, peut-être ?
Chercheurs, non. Sincèrement, non. Ce que ça nous apporte, c'est quand même le sentiment... quand même le sentiment de, qu'il y avait une brèche, enfin un trou à remplir, quelque chose qui manquait. Et là, bon, depuis tout à l'heure, on parle énormément de ce qui va mal, des souffrances, etc. Mais même vraiment juste à la base, réfléchir sur le travail, sur le temps qu'on y consacre, sur le fait, sur cette centralité du travail qui est considérée comme allant de soi. Depuis que vous êtes tout petit, on vous dit que ben, plus tard, il va falloir travailler. C'est ça qui va être central. C'est pas vous occuper de votre famille ou avoir une activité associative ou encore un engagement citoyen, c'est travailler. Vous allez à l'école dans le but de travailler, et maintenant vous allez à l'université bientôt pour être embauché par une entreprise que vous connaissez déjà. Donc c'était faire réfléchir sur ça. Là, c'est peut-être la déformation du chercheur qui fait qu'effectivement à un moment donné on est alerté et qu'on a envie de mettre quelque chose en place. Ça, c'est possible. Après, pour répondre à la deuxième partie de la question sur les participants, qu'est-ce que ça leur apporte ? Je crois que c'est ça, c'est ce temps de parole et le fait de prendre conscience, de mettre en conscience certaines choses. Ah oui, tiens, je passe 8 heures par jour, 5 jours par semaine
au travail. Ça crée de la matière, mais cette matière-là, qu'est-ce qu'elle devient finalement ? Comment elle se transforme et qu'elle produit quelque chose de positif ?
C'est un outil facile, entre guillemets, donc je reprends sur les souffrances au travail. Quelqu'un qui vivrait des grandes difficultés dans son travail, on peut aller jusqu'au harcèlement, mais pas nécessairement, des difficultés au quotidien dans le travail, le fait de prendre un peu de recul par rapport à la place, à l'importance qu'on accorde à ce travail-là, ça peut modifier pas mal de choses. D'une part, le seuil de tolérance qu'on va avoir, c'est-à-dire, bon, mais si le travail est peut-être un peu moins important, si je le désacralise un petit peu, peut-être que les souffrances ou les difficultés que je vais rencontrer dans cet endroit-là, ben, peut-être que ça va moins me démonter. Ça va peut-être pas me faire aller jusqu'à une tentative de suicide. Ça, c'est... Par exemple.
Mais désacraliser le travail, ça peut commencer déjà par le mettre en chanson. Et je crois que Magali a fait un petit medley des chansons françaises qui parlent du travail. On va l'écouter tout de suite.
Notre premier jeu va s'appeler « Pour bien faire, il faut bien commencer ».
Ça ne dit rien du tout, ce jeu-là.
On l'appelle aussi « Rangeons un peu la nurserie ».
J'étais sûre que c'était un piège.
Est-ce qu'on commence ?
C'est un jeu, vous l'avez dit, Mary Poppins.
Ma foi, cela dépend de la façon de l'envisager. Vous savez, il est vrai que dans chaque travail, il y a un élément au fond qui fait que l'on s'adapte, une chose qu'on aime. Et chaque tâche peut devenir, si on l'humeur et plaisir, tous les soupirs ne valent pas mieux qu'un sourire.
J'aime bien travailler, mais ça dépend des jours. Il y a des jours pour et des jours pour pas travailler. J'aime bien travailler, mais j'aime bien dormir aussi. Ce que je préfère, c'est quand je travaille au lit. J'aime bien travailler, mais le week-end je me la coule douce. Romance, vin, délicieux, merguez et couscous. J'aime bien travailler, est-ce que t'aimes bien travailler ? J'aime énormément l'argent, c'est pourquoi j'aime. j'aime bien travailler, 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 travailler.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume.
Et surtout à l'argent, tout ce que je déteste. Enfin.
On n'a pas voté pour travailler plus, mais qui a voté pour travailler plus, pour gagner plus. J'ai pas décidé de travailler plus, pour gagner.
On travaille.
Vous êtes toujours sur Radio Clapas avec l'émission de l'association Wakadi sur le thème du travail. On est avec le collectif Penser le Travail, Delphine Grelier et Tatiana Harfel. Et je crois que Tatiana voulait rajouter des précisions par rapport à la question de Manu sur à quoi peuvent bien servir ces cercles de parole que vous initiez pour libérer peut-être un peu la parole de certains travailleurs.
Oui. Et sur le préambule de la question qui était tous ces cabinets qui viennent manger un argent fou des entreprises qui pourraient servir à des formations ou à des choses utiles pour faire des espèces de séminaires un petit peu étranges dont les travailleurs ne voient jamais les effets ou alors les effets délétères. Il y a quand même une question là qui paye, c'est l'entreprise pour toutes ces choses, toute cette parole déléguée extérieure, ces comptes rendus. On est un féodé à l'entreprise quand on intervient là. On n'interviendra pas en entreprise, c'est une décision qu'on a prise ensemble. Ça, c'est une première chose. Et pourquoi, à quoi ça sert? C'est vraiment une question qu'on nous pose très très souvent. Et en fait, moi je suis un peu diminuée parce que c'est tellement déjà énorme quand les gens viennent, et même s'ils n'ont pas de problème et qu'ils réfléchissent ensemble, qu'ils sont souvent isolés, même dans leur profession, de dire tiens, il y a un endroit où on peut discuter de ça. Ça paraît pas beaucoup. Après, oui, on va collecter des témoignages sur le site. Il y a des gens qui pourront aller voir. On mettra en lien des ressources, des orientations s'il y a des problèmes vers des consultations souffrance au travail ou juridiques. Mais déjà, on est face à une chose qui est qu'on ne produit pas, nous, de discours par-dessus, mais que déjà, on laisse émerger. C'est long. Et pour l'instant, on n'en fait rien, vraiment, à dessein. C'est déjà énorme pour nous, ce qui se passe quoi, pendant ces soirées. Voilà.
Et pourtant, vous avez, on l'a vu tout à l'heure... Des fondamentaux, au fond, un bagage universitaire pour certains d'entre vous, en tout cas une pensée sur le thème du travail. Donc vous n'en faites rien, mais au fond, il y a quand même probablement une envie d'amener à réfléchir. Je pensais tout à l'heure, dans l'introduction, on parlait des déterminismes. Est-ce que ça fait partie des choses qui vous alertent? Est-ce que vous avez envie de faire réfléchir sur ces questions-là? Pourquoi on choisit un travail?
Oui, bah, par exemple, dans les projets de l'association qui devraient avoir...
voir le jour, je pense, début 2013, enfin début de l'année prochaine. C'était l'idée de faire des ateliers avec des récits de trajectoire, c'est-à-dire réfléchir justement sur les trajectoires professionnelles, qu'est-ce qui, dans l'histoire familiale et l'histoire sociale d'une famille, va déterminer notre rapport au travail et effectivement le travail qu'on va choisir par la suite. Là, on abordera forcément aussi les questions du genre. Comment, quand on est homme ou femme, on choisit différemment ses orientations professionnelles, ça c'est évident.
Et vous amenez ce genre de théorisation au moment des collectes de parole ?
Alors, on est, comme le but, encore une fois, c'est, si on avait voulu faire des conférences, on pourrait le faire nous, on pourrait faire venir des intervenants. C'est pas nécessairement un choix qu'on a fait. On pourra le faire, fera, oui. On le fera à l'avenir parce que y a des intervenants qu'on a à cœur de faire entendre. Mais là, le but, c'est vraiment pas de théoriser. C'est-à-dire que en plus, on se retrouve lors des soirées avec des publics qui viennent vraiment de tous horizons. Donc le but, c'est aussi que ça reste un moment où personne se retrouve devant un langage universitaire et incompréhensible, où on se mettrait à théoriser tout ce qui s'est dit dans la soirée. Après, effectivement, à l'issue des ateliers de parole, généralement, il y a l'un d'entre nous, l'un des animateurs, qui va synthétiser un petit peu tout ce qui s'est dit, qui va donner des pistes qui sont effectivement un peu théoriques, qui va donner des pistes de réflexion. Mais encore une fois, nous, le but, c'est d'amener ces participants à réfléchir ensemble. Sinon, simplement, on distribuerait des livres et les soirées s'arrêteraient là. C'est vraiment pas l'objectif.
Est-ce que parfois, c'est pas un peu compliqué pour vous, hein, dans le sens où les gens qui parlent de leur travail ont souvent des spécificités techniques, etc., ont un vocabulaire d'entreprise, un vocabulaire lié à leur métier, ont des concepts, des choses comme ça, qui font que quand vous y êtes étranger, quand même vous réfléchissez sur le travail, c'est compliqué à un moment donné de pouvoir être pertinent dans un aller-retour, hein, dans une discussion par rapport au quotidien, à leur quotidien professionnel, notamment d'un point de vue je sais pas, technique ou gestion d'entreprise, etc., avec des choses qui se font et voilà, qui vous sont un petit peu étrangers.
Alors pour le moment, on a la chance que ce soit jamais vraiment arrivé. On a aussi, en tout cas, on a la chance déjà de venir d'horizons qui sont très divers. Il y en a qui ont travaillé en entreprise, d'autres dans le secteur du spectacle, de la culture, de l'enseignement. Pour le moment, c'est pas vraiment arrivé. Et là, c'est vrai que le bagage un peu conceptuel, théorique qu'on a nous permet à chaque fois de peut-être de reformuler quelque chose qui serait pas entendu par l'ensemble du groupe et faire en sorte que on sort de la discussion purement technique sur tel ou tel métier et on revient vers une discussion sur le travail ou sur le thème qu'on a choisi
pour la soirée. Je dis ça parce qu'à Ouagadis, c'est vrai qu'on a invité un certain nombre de gens qui sont venus parler de leur métier aussi et c'était des fois parfois compliqué de pouvoir rendre audible au public qui écoute Clapas la substance de leur métier, etc.
Surtout qu'on avait invité un CRS, les gens n'ont rien compris.
Alors ça dépend, on travaille par petits groupes. Quand on est par exemple au café, on a chacun ou chacune des animateurs, disons 4, 5, 6 personnes autour. Donc moi, ça m'est déjà arrivé. Il y a deux choses dans cette histoire de langage. Il y a le langage d'un métier, d'un vrai métier technique, et puis il y a aussi toute cette langue d'entreprise avec des anglicismes dont on n'a pas forcément besoin, qui se retrouvent d'une entreprise à l'autre et qui nous font bien rire entre nous parce qu'on retrouve les mêmes. Bon, ça je le mets de côté, on comprend quand même le côté vraiment métier, de langue et amour d'un métier. Effectivement, il faut cadrer quand c'est un peu long, mais les gens adorent expliquer. Dans ces cas-là, on demande des détails et on retrouve au moins avec une langue qui veut dire quelque chose. Je veux dire un ensemble de choses de vocabulaire de l'entreprise, process management, etc. Il y a beaucoup de mots vides, donc se retrouver face à une langue de métier, fût-elle technique, moi ça me fait plaisir. Donc après, effectivement, on reformule, on explique, mais plaisir de découvrir ces mots-là et les gens eux-mêmes, il y a une forme de reconnaissance à les faire préciser.
Moi, j'avais une question sur le profil, je ne sais pas si ça existe, mais le profil des participants. C'est-à-dire qui c'est qui vient plus tôt ou est-ce que c'est vraiment d'horizons différents avec des métiers plutôt techniques, manuels ou...
Alors, par des formations sociologiques, j'ai essayé de
classifions,
faisons des catégories. J'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, c'est-à-dire qu'on a vraiment, on a de tous les âges, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à la fois avec des personnes qui n'avaient jamais travaillé, c'est déjà arrivé, hein, quelqu'un qui est en train de passer le concours pour l'enseignement, mais qui n'avait pas encore travaillé, à la fois des personnes retraitées, on a aussi des chômeurs, Et ça, à chaque fois qu'on organise une soirée, on spécifie bien que c'est pas parce qu'on vient parler du travail qu'on n'accueille pas les chômeurs. Donc,
au contraire.
Donc, on a vraiment tous les âges, tous les. Alors, effectivement, oui, on va avoir des personnes qui sont militantes. Oui, on a des personnes qui ont été forcées de réfléchir sur le travail après une situation de souffrance ou de harcèlement. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de tout. Et pour le moment, il n'y a pas de profil qui se dessine.
On a un petit son qu'on aimerait vous faire entendre. Je ne sais pas si vous connaissez le spectacle qui s'appelle « Sortie d'usine » de Nicolas Bonneau. Et ça peut ressembler à des choses que vous auriez sans doute envie de mettre en place. L'exemple, l'histoire, c'est Nicolas Bonneau qui se met en scène en tant que sociologue qui essaye de comprendre la vie dans une usine. Donc il va rencontrer un ancien ouvrier à la retraite qui s'appelle Monsieur Simoneau, qui est pour le coup un taiseux qui refuse de parler de son travail. C'est assez rigolo de voir comment lui va s'extasier quand il va essayer d'avoir quelques vocabulaires, comme tu disais, Tatiana, tout à l'heure, spécifiques. Et au final, on a quelqu'un qui a du mal à parler de son travail. On voit que c'est complexe. Et puis, dans son spectacle, on va le suivre, qui va rentrer dans l'usine. Et il va aborder, dans l'extrait que nous allons écouter là avec Radio Clapas, un moment où il rentre dans l'usine, où l'ancien ouvrier à la retraite retrouve ses anciens collègues. Et on va comprendre qu'il s'est passé des choses assez graves dans cette usine, notamment sur la question des accidents du travail. On écoute ça et je pense qu'on pourra rediscuter derrière de ce que vous entendez.
Quand je sors du coffre sur le parking, il y a une drôle d'odeur qui me remplit les narines et dans certaines voitures, il y a des gars qui fument une cigarette. Puis là, on prend l'allée qui mène vers l'atelier numéro 13. Mon atelier. Ah, c'est vrai. Moi, je pointe plus. Café. Toujours trouvé dégueulasse. Puis là, dans le vestiaire, il y a des gars qui accueillent Gilbert. Putain, nom de Dieu, c'est Simoneau. Eh, les gars, là, Simoneau, qu'est-ce que tu fous, là, nom de Dieu? Simoneau, ça te manque tant que ça, l'usine, c'est ça? Salut, les gars. Puis c'est qui, là, le jeune avec toi, là? Ça, c'est un gars qui raconte, enfin, qui fait des histoires sur... Vas-y. Voilà, si je peux me permettre, là, je fais un spectacle sur les ouvriers, donc je voulais voir un peu comment ça se passe, votre vie à l'usine, tout ça. Il m'a dit, oh, tu te crois où, là-haut? C'est pas un zoo, ici, là, hein? Pourquoi tu fais ça? En tout cas, t'as pas une tête d'ouvrier, toi. Reste avec moi. Dans un coin du vestiaire, là-bas, il y a un type avec une tête de fouine qui me regarde bizarrement. Reste vraiment avec moi. Puis là, on prend un grand couloir, de l'autre côté du vestiaire. Au bout, il y a une grande porte coulissante avec un brouhaha de machine. Casque. Ça, c'est vachement intéressant pour moi, Gilbert. Et ce qui serait vraiment intéressant, ça serait que m'expliquer un petit peu le fonctionnement des différentes machines. Mais que je comprenne comment ça se passe. Comment? Le perçage, d'accord, hein? C'est pour percer, d'accord? Comment le pressage, d'accord, hein? Ah, c'est pour presser, d'accord? Comment le pliage? Attendez, Gilbert! Ça serait pas pour plier? Ajustage. Ça, c'est vachement intéressant. Pour moi, j'ai bien... Parce que j'ai jamais vraiment compris la différence entre le tour et la fraise. D'accord, le tour, c'est quand ça... Et puis la fraise... D'accord. Oh! Ah, dis donc, Gilbert, c'est vachement bruyant. Ah non, mais vous avez l'habitude, mais... En plus, j'ai vu qu'il y a certains gars qui portaient même pas de protection sur les oreilles. On sort de l'atelier numéro 13, on longe le hangar, puis là, on arrive dans une salle, il y a des écrans de contrôle, c'est une salle de vidéosurveillance. Et là, il y a un gros type qui accueille Gilbert. Simoneau, nom de Dieu! Dans mes bras! Saint Simoneau, nom de Dieu! Saint Simoneau, mon sauveur! Salut, Dédé. Saint-Simon, au nom de Dieu. Saint-Simon. Ça, c'est marrant comme surnom, là. Ça vient d'où? Saint-Simon, mais c'est qui, lui? C'est vrai que c'est un gars qui raconte, enfin, qui fait des histoires. Mais Saint-Simon, mais il t'a pas raconté pour lui et moi? Ce matin-là, quand il s'est levé, Dédé, il a craché dans son lavabo, puis il y avait des glaires toutes rouges. Bon. Il s'est dit que c'était pas la peine qu'il aille voir l'infirmière du travail, parce que la dernière fois, elle lui avait dit « Écoutez, monsieur Dédé, faut arrêter de fumer, là. » Bon, ben Dédé, il fume pas. Il a quand même décidé d'aller pointer ce matin-là. Puis il se retrouve dans une cuve en train de souder. Poussière de chrome et de nickel recommandée hautement. Mais c'est la suite. Bon, déjà, il a son poste à radio avec lui. Quand on soude le chrome et le nickel, d'abord, il faut faire aucun à-coup. Bon, d'abord, on soude du bas vers le haut. Mais aucun à-coup, sinon, ça fait foirer toute la soudure. Puis tout est à reprendre. Et là, Dédé, il a envie de tousser, mais il se retient pour pas faire foirer la soudure. Il se retient, et à un moment donné, il peut plus s'en retenir, et il tousse, il respire de travers, il avale la fumée, et il s'écroule au fond de la cuve. Et là, Dédé, il s'est dit qu'il allait crever tout seul comme un gros con au fond de sa cuve. Et à ce moment-là, il a entendu une voix qui disait son nom. Dédé! Dédé! Puis là, il l'a vu. À travers la fumée, penché sur lui, il a vu un ange. Un ange qui disait son nom. Dédé! Dédé! Alors Dédé, emmenez-moi. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Là où la misère est moins pénible. Au soleil. Puis Dédé s'est écroulé. Puis quand il s'est réveillé, ben il était au paradis. Dans les bras de Saint-Simonneau. Oh, Dédé! Dédé, réveille-toi! L'usine, c'est la mort. Il n'y a rien de pire que de crever au boulot. Alors c'est pour ça. Mais après l'accident de Dédé, on a décidé que ça ne pouvait plus durer. Alors on s'est foutu en grève. Ouais. On s'est mis à côté de nos machines et puis on les a éteintes. Et puis ça, c'était beau à entendre. Dans tout l'atelier. Le silence des machines. Les petits chefs pouvaient gueuler. On n'en avait rien à foutre.
Si tu te tais quand on te demande rien, qu'est-ce que tu diras quand on demandera de te taire ?
Toujours sur Radio Clapaz, toujours avec Wakadi et toujours sur le thème du travail. On vient d'écouter des extraits de Sortie d'usine de Nicolas Bonneau. C'est donc un travail théâtral autour du monde du travail. Tout à l'heure, hors micro, nous parlions de Pierre Carle et de Attention danger travail. Alors, on voudrait peut-être parler avec vous, le collectif Penser le travail, sur la question de la centralité du travail. C'est présent dans les spectacles, c'est présent dans les films. Est-ce que ça doit être présent partout dans la vie ?
Est-ce que ça doit être présent partout dans la vie ? Moi, j'ai l'impression que c'est présent un petit peu partout dans la vie et que justement, c'est un peu l'idée qu'il y a à déconstruire. Déconstruire cette idée que ça va de soi, que le travail est central par rapport aux autres sphères. Vous l'avez dit en introduction, ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps, on nous dit souvent retour à l'âge d'or du travail, revenons au travail qui est sain, etc. Mais il n'y a pas toujours eu un travail qui était central et qui était source d'épanouissement. Enfin, c'est même plutôt récent à notre échelle. Donc ouais, l'idée c'est vraiment de... Alors, l'idée, encore une fois, c'est pas d'imposer aux participants qui viennent nous voir la vision qu'ils doivent avoir du travail et la place qu'ils doivent y accorder dans leur existence. Mais par contre, l'idée, c'est vraiment de prendre conscience de cette centralité du travail, de la manière dont on nous apprend depuis le plus jeune âge que ça va de soi, sans jamais avoir une occasion, une porte pour pouvoir le remettre en cause. Donc l'idée, c'est vraiment ça, mettre en
cause. Quand même, en terminale, on fait une année de philo, on dit le travail, tout ça.
C'est vrai, en terminale, on vous laisse ces 6 mois pour essayer de réfléchir. Mais enfin,
t'as l'air en terminale, toi ?
Non, mais il y a un copain qui m'a raconté, et il paraît qu'il y a ça qui tombe souvent au bac.
En tout cas, voilà, l'idée, c'est vraiment d'arriver à remettre ça en conscience. Après, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est conscient de la place qu'on y accorde, là, à la limite, chacun prend sa décision. Ok, moi, je décide, en toute conscience, de travailler 5 jours par semaine et 8 heures par jour. Mais est-ce qu'on pourrait avoir le choix de faire un autre choix, justement, et d'y accorder une autre
place ? Alors, la question, est-ce que ça se pose en termes de choix ?
au niveau de l'individu ou au niveau de la société, parce que en même temps j'entends que vous voulez pas imposer une pensée, mais quand on regarde un peu les pages de votre collectif, qu'on voit un peu ce qui se passe, on voit que derrière il y a une idéologie sur le travail, il y a une idéologie aussi sur le non-travail, et qu'il y a quand même en tout cas un courant de pensée dans lequel vous vous inscrivez et qui a clairement déjà pensé d'autres formes, d'autres solutions, d'autres modes d'organisation sociale.
Alors tout à fait, une des soirées qu'on avait organisées, c'était et si on travaillait autrement, de façon à ce que les gens eux-mêmes amènent des pistes. Alors ça peut être à des niveaux très 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 petit. Mon organisation de travail, est-ce que je suis obligée de ceci, cela dans ma journée? Mais ça peut être à des niveaux plus grands. Et oui, c'est plutôt en termes de société. L'association Penser le Travail de Lyon, Penser le Travail avec un A dont on parlait tout à l'heure, il y a dedans Baptiste Milondo, qui est un économiste qui a publié et qui fait des recherches sur le revenu inconditionnel. Donc, vous savez, un revenu qui est donné à tous sans aucune condition de nationalité, d'âge, etc., qui est financé par la CSG-RDS, qui est viable économiquement. Il a des crédits de recherche assez élevés pour pouvoir vraiment mener à bien cette idée-là. Donc ça, c'est au niveau, évidemment, social. Ça, il y a une grande partie dans laquelle il faut avancer. Au niveau personnel, bon, moi, après, personnellement, je suis toujours... il y a des gens qui souffrent énormément au travail et donc le travail n'a pas un sens qui paraît évident. Je parle de ces nouveaux métiers du genre centre d'appel, ou en termes d'amour du métier, du travail bien fait, on peut repasser, ou agent de recouvrement, celui qui appelle les gens pour leur dire, pour les crédits revolving qu'ils n'ont pas payé. Malgré ça, ils sont très attachés à ce travail. Moi, c'est un attachement qui m'est un peu compliqué.
Ils ne sont pas attachés à leur salaire, plutôt?
Alors, évidemment, oui, d'où vient l'intérêt pour notre entreprise, de mon intérêt pour gagner ma vie en entretien d'embauche, ça. Il y a des gens qui disent ça. Attachés à leur salaire, même pas, ça serait bien. Généralement, la demande est celle d'une reconnaissance, au moins verbale, même pas une augmentation. Un besoin de reconnaissance énorme. Je pense qu'on est beaucoup trop dedans.
Et parce qu'aujourd'hui, le travail, c'est aussi une forme d'identité sociale. Exactement. Ne pas travailler, on le voit d'ailleurs chez les chômeurs, exactement, qui expliquent qu'ils ont le sentiment d'avoir perdu à la fois des relations sociales, à la fois une forme d'identité, de place dans la société. Et ce que vous dites, c'est à la fois, je l'entends, et à la fois, c'est dans un contexte social qui me paraît complètement à contre-courant. Au moment où, contraire, on dit qu'on va lutter contre le chômage et qu'il faut le réduire à tout prix, arriver à défendre qu'on peut ne pas travailler, et aussi que
travailler moins,
et que la société peut financer
le
fait que les autres travaillent moins. Est-ce que du coup c'est quelque chose qui vous paraît difficile à défendre, ou quelque chose qu'il faut penser?
Déjà, il faut remettre les choses à leur place, c'est-à-dire que nous, on ne s'est jamais revendiqué comme une association. On n'est pas en train de militer pour le revenu inconditionnel. Déjà, ça, c'est une chose. Et pour revenir sur la centralité, cette centralité, elle est devenue toxique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand le travail, c'est effectivement le vecteur de mon identité sociale, identité personnelle, c'est-à-dire que j'acquiers un statut par ce biais-là, j'ai des relations sociales par ce biais-là, par le biais de mes collègues de travail, j'ai un statut social parce que j'ai un certain salaire et que donc voilà, ça me donne un statut, j'ai mes ressources économiques, donc qui me permettent de m'alimenter, mais qui me permettent aussi d'aller consommer, et on me dit aussi que si je peux consommer, je peux exister socialement, donc comme ça la boucle est bouclée. On dit toujours faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais là pour le coup c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que dans cette sphère du travail, je réunis tout. Toute mon identité sociale, personnelle et ma survie économique, à moins qu'on ait les clés pour aller faire un potager et devenir autonome, dans ce cas-là, super, mais malheureusement, on n'est pas tous dans ce cas-là.
Puis après, quand en plus on a une grosse maladie, on est content d'avoir la sécu, parce qu'un potager, ça ne sauve pas tout quand même.
Voilà. Mais en tout cas, on a tout joué sur la sphère du travail. Il nous facilite la tâche, c'est super. On a tout mis sur la sphère du travail, et c'est ce qui fait que c'est d'autant plus problématique. Vous parlez des chômeurs. Pourquoi est-ce que les chômeurs, ils vivent si mal leur chômage ? Parce que justement, une fois que j'ai plus de travail, j'ai plus d'identité sociale, personnelle, j'ai plus de revenus. Et on a tout mis sur cette sphère-là. Et puisqu'on parlait de référents théoriques tout à l'heure, Dominique Méda, qui est quand même bien plus reconnue que nous, on peut l'être, c'est bien ce qu'elle véhicule comme idée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir repenser le travail, le remettre à sa juste place, ce qui ne veut pas dire plus travailler du tout et dire que c'est mal de travailler ou qu'il ne faut pas travailler. Ce n'est pas du tout notre discours. Le remettre à sa juste place, parce que pendant qu'on mise tout sur le travail et qu'on consacre tout notre temps au travail, tout ce qui est engagement citoyen, associatif, etc., il n'y a plus de temps pour ça, il y a plus...
Mais ça, finalement, c'est vieux comme le mouvement ouvrier, parce que déjà, c'est ce que disait Marx, avec la diminution du temps de travail qui permet à l'homme de s'épanouir en créant à côté, en faisant des choses comme ça. Enfin, c'est depuis qu'il y a le capitalisme, fin 19e siècle, milieu 19e siècle, les travailleurs et les gens qui sont dans le mouvement ouvrier, des théoriciens de l'émancipation des travailleurs, disent qu'il faut diminuer le travail sans dire qu'il faut annuler le travail, parce qu'il faut bien forcément, à un moment donné, manger, créer des richesses. Enfin, des... Ça ne veut pas dire qu'il faut de la croissance ou autre, mais il y a quand même cette question-là qui se pose souvent.
Oui.
Oui, bien sûr que c'est vieux, comme... évidemment, mais en même temps...
On a... Son côté professeur...
Il a des questions qui répondent que oui.
Mais on a été assez victimes après, dans le... évidemment que c'est très vieux, on a quand même été victimes à l'inverse de notre travail et plus, de la valeur travail, du vrai travail, etc. Il faut un petit peu pouvoir...
Ça, c'est la droite, c'est autre chose.
Ah ouais, quand même.
Est-ce que, du coup, vous vous situez pas à contre-courant de ce qu'on entend depuis des années, là, où le travail, le symbole du travail, c'est devenu ces dernières années, enfin, jusqu'à ce que... parce que le changement, c'est maintenant.
Oui. Là.
Du coup, voilà, je trouve que votre discours, idéologiquement, en fait,
On n'est pas sarkozyste.
Il va à l'encontre... Non, non, il n'est pas sarkozyste, ça. Je vous le souhaite.
Il est plutôt vilpéniste.
Mais il peut être vilpéniste, oui, tout à fait.
Avec le revenu inconditionnel.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va à l'encontre de cette espèce de... Comment dire, de...
De sacralisation, mais
sacralisation
c'est une
du sacralisation. Travail qui se joue aussi à gauche, hein, parce que y a, oui, dans ceux qui se prennent à gauche, après, ouais, c'est toujours un grand débat, mais enfin, il se joue aussi dans tous les milieux politiques où on veut réinjecter du travail au moment où.
Mais cette sacralisation, d'autant plus que cette sacralisation, elle est devenue toxique, encore une fois. Elle est toxique pour le chômeur qui pense qu'il n'a aucune existence et aucune utilité sociale à partir du moment où il n'est pas en lien avec la société par le biais du travail. Et elle est toxique à partir du moment où elle a mangé sur toutes les autres sphères. Elle est toxique à partir du moment où ça a relevé les seuils de tolérance sur des difficultés dans le travail qu'on tolère parce qu'il faut absolument travailler, il faut absolument pas perdre son emploi. Donc à partir de ce moment-là, nous, ça nous semble légitime, effectivement, d'être à contre-courant. Et on est joyeusement à contre-courant.
Alors, on va écouter, justement, on parle beaucoup de chômeurs, on va écouter ce qu'ils en disent du fait de ne pas avoir de travail. On va écouter un extrait qui a été enregistré lors d'une précédente émission de Wakadi, parce qu'à Wakadi, on recycle tout,
on est
à la Maison des chômeurs à Montpellier.
Le côté bio, c'est du produit local.
J'essaie de me lever chaque jour, en même temps que mon copain. C'est pour garder le rythme. Mais même si t'as ton esprit qui te crie « bouge-toi », mais des fois, y a ton corps, il suit pas. Ces matins-là, quand la porte claque, quand mon copain part travailler, il y a ce sentiment de vide qui m'envahit d'un coup. Même parfois, mais je mange pas. Pour moi, on nourrit son corps que quand il a bien travaillé. La seule façon que je vois pour s'en sortir, c'est de regarder en face ses qualités, ses défauts, de les travailler pour t'améliorer. Ça permet de mieux s'adapter aux situations de la vie. Dans ma vie professionnelle, je suis bien passée d'un milieu ultra féminin à son extrême. De la French manucure à l'huile de moteur. Je peux vous dire que mes mains s'en souviennent. Hein. Et aujourd'hui, retour à la case départ, avec en plus l'étiquette honteuse de chômeuse collée sur le front. S'adapter à différents milieux de travail, j'y suis arrivée une fois, deux fois, trois fois. Maintenant je suis rodée, hein. Je passerai la quatrième sans difficulté. C'est plus une question d'adaptation quand la vie et ses aléas vous mettent dans des situations difficiles et qui se répètent encore, encore. À ce moment-là, c'est l'esprit et le corps qu'il faut sauvegarder. L'esprit surtout.
Alors, on en discutait hors micro pendant qu'on écoutait l'extrait. C'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde a... serait plutôt d'accord avec l'idée de repenser le travail, de réfléchir à travailler autrement, mais en pratique, comment on fait pour arriver à s'organiser? Comment on fait concrètement pour travailler autrement ou différemment?
Ce qui est synonyme.
Syndique.
D'abord, on s'indique.
À solidaire.
Il a été dit hors micro aussi, est-ce que je change de boîte ou pas? Il y a des boîtes qui sont au niveau du système toxique, effectivement. Donc ça,
France Télécom, par exemple.
Si on est à France Télécom, peut-être on peut changer.
Rester au bout du fil.
Boîte, voilà. Il y a la question des nouvelles organisations, en scope.
Non, il est vraiment de pire en pire au fil des émissions, je suis désolée.
Est-ce qu'on peut travailler ailleurs ? Il y a aussi la question qu'on a des gens comme ça qui viennent au débat et puis qui s'aperçoivent qu'ils n'ont jamais parlé à personne autour d'eux dans leur société et comment ça se fait, et ou qui peuvent du coup croiser d'autres gens. Voilà, donc c'est déjà de se remettre en lien, voilà, s'en aller quand il faut et puis pouvoir organiser, se retrouver au sein des entreprises entre travailleurs. Voilà. Mais ça, c'est des pistes longues, hein. Puis c'est des questions de modèle économique, quoi.
Alors, c'est vrai qu'on on va approcher un peu de la fin de l'émission. Là, on a beaucoup parlé du travail comme d'une sorte d'aliénation. On a parlé de souffrance au travail, on a parlé de travailler autrement. Mais le travail, ça peut aussi être un moyen de s'épanouir, ça peut aussi être un moyen de se réaliser. Est-ce que ça, c'est aussi pensé ? Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez, dont vous entendez parler quand vous voyez les gens, des gens qui sont contents d'être à leur travail ?
Mais alors, ça, c'est quelque chose qui revient quand même beaucoup aux soirées. C'est « j'aime mon travail ». J'aime ce que je fais. Alors effectivement, si on parle des gens qui viennent parce que ça va plus, ils viennent pas écœurés du travail, ils viennent avec le regret de plus pouvoir bien faire leur travail. Ça, c'est le fait de bien faire son travail, c'est quelque chose qui tient énormément à cœur, qui revient vraiment à chaque soirée d'ailleurs. L'attachement au travail, effectivement, tout ce que ça apporte, le lien avec les collègues, et encore une fois le statut, le sentiment d'utilité, etc. Ça, c'est quelque chose qui est très fort, trop fort, on l'a dit peut-être tout à l'heure, mais qui existe et qui, effectivement, c'est pas que du négatif. Effectivement.
Oui, apprendre un métier, y progresser, créer au sein de son métier, bien sûr. Après, ce que tu disais, bien faire son travail, c'est une des questions principales des enquêtes. Avez-vous les moyens de bien faire votre travail ? Si les gens ont les moyens de bien faire leur travail, ils sont heureux au travail. Bon, on parlait d'investissement peut-être un peu trop attendre de son employeur, qui n'est pas forcément là pour prodiguer de la reconnaissance, paraît un peu aléatoire, trop attendre. Peut-être attendre un peu moins et faire son travail d'autant mieux.
Et ce qui est souvent revenu, en fait, c'est que ce qui était problématique, c'est pas le travail en soi. Et finalement, quelque part, nous, même si on envoie des pistes de réflexion dans ces directions-là, sur le statut du travail, sa centralité, etc., finalement, c'est pas le travail qui est problématique, c'est son organisation aujourd'hui. C'est comment on travaille. Et finalement, dans les soirées, c'est ce qui revient. Ce qui est problématique dans mon travail, c'est pas que je veux plus travailler, c'est pas que j'aime plus ce que je fais, c'est que la manière dont on me demande de le faire ou dont on m'oblige à le faire, là je tiens pas, ou ça me convient pas, ou ça m'est problématique. Donc c'est plus ça, finalement, c'est plus l'organisation du travail qui est en question que le fait de travailler. Mais on le dit souvent, si jamais on mettait le revenu inconditionnel en place, tout le monde n'arrêterait pas de travailler demain. Il y a cette idée que tout le monde arrêterait de travailler.
Et justement, alors, donc du coup, vous avez une réflexion là-dessus par rapport au revenu inconditionnel ou des choses comme ça. Donc du coup, si on devait se projeter sur une autre société que celle qu'on a là maintenant, donc avec peut-être le revenu inconditionnel ou autre chose, comment vous verriez la place du travail dans une société un peu autre que celle où on est ?
Ça dépend ce qu'on considère comme travail. Une des questions de penser le travail à Lyon, c'est madame une telle à 51 ans, elle est au RSA maintenant, elle s'investit à plein temps dans une association. Est-ce qu'elle travaille ? Vous pouvez répondre ? Est-ce qu'elle travaille ?
Ben, je ne sais pas, ça dépend, je ne sais pas.
Comment est-ce qu'on considère qu'elle travaille ?
Très certainement.
Et moi, je considère qu'elle travaille. Donc, quelle est la place du travail ? Elle est dans beaucoup d'engagements associatifs, de boulot de relations d'aide, de travaux. Enfin, moi, la
surtout d'autant travail... plus que souvent, les associations pallient au manque de services publics et donc remplacent les fonctionnaires qui sont payés pour un travail et pour faire des...
Non, mais c'est du travail. Oui, c'est du travail, bien sûr.
Alors, général qui paye des associations et paye des fonctionnaires pour faire des
travaux. Eh bien, moi, ce travail-là sera au moins un petit peu plus payé. Ce serait pas mal.
La question, c'est effectivement, c'est du travail.
Oui.
Mais du coup...
Attention, je sens qu'on entend le générique de fin.
Aïe.
Ça y est. Dans tes oreilles, c'est la musique du générique de fin. Tu la reconnais bien ?
Ah, je la reconnais. À chaque fois, nous coupe le sifflet.
Exactement. Alors, avant de se quitter, on aimerait bien que vous puissiez nous donner les liens pour pouvoir vous trouver, soit sur Internet, soit si vous avez des dates de prévues pour des prochaines soirées. Est-ce que vous pouvez les annoncer ?
Alors, le site Internet qui est en construction, mais qui va pas tarder à être tout beau, tout fini, c'est Penser le travail. travail.org. L'adresse mail, c'est penserletravailmpt@gmail.com, et on sera présent à la foire aux associations de Montpellier le 9 septembre.
Et on a même un Facebook.
Ouais, c'est la honte.
Ah, mais Wakadi aussi a un Facebook. On a vous pouvez Facebook, nous retrouver sur Facebook. On a un Facebook. Ah, la honte. Carrément. Facebook. C'est Guillaume, je pense.
Nous serons aussi au Forum des Assos. Ouais. Et vous pouvez surtout retrouver toutes les émissions.
On sera
aussi
à la plage.
Cet été. Mais ça, c'est. Ils vont nous reconnaître peut-être.
On sera aussi dans les festivals. Et on sera partout. Wakadi sera partout.
Et surtout, ils peuvent retrouver nos émissions, c'est-à-dire nos corps sur la plage, mais nos voix sur les ondes.
Je vous conseille les voix.
Alors, moi, j'aurais conseillé le corps.
Sur Wakadi, donc O-A-Q-A-D-I.
C'est un acronyme.
.fr, tout simplement.
Ah, je l'avais déjà expliqué, Jean-Jacques, ce que c'est un acronyme.
Ouais. J'ai déjà perdu.
Rappelle-nous c'est quoi un acronyme, s'il te plaît, Jean-Jacques.
Bah, en tout cas, merci beaucoup, Delphine, Tatiana. Merci à tous les auditeurs de Radio Clapas. Et on se retrouve très prochainement.
À la rentrée.
Toujours sur les mêmes ondes.